Chaque midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
4 ans que Simone Veil nous a quittés. Depuis vendredi, je vous le disais, une grande exposition dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris avec des documents exceptionnels, photos, archives personnelles, présentées parfois pour la première fois au public, raconte la vie de celle qui est devenue une icône. Bonjour Olivier Rosenberg.
Bonjour.
Professeur à Sciences Po, je parle d'icône parce que vous-même, vous parlez d'icône républicaine. Vous êtes avec Constance de Golemin, celui à qui on doit cette exposition. Le public est accueilli par ces mots de Jean d'Ormesson lors de l'entrée de Simone Veil à l'Académie française. « Nous vous aimons, madame, comme l'immense majorité des Français ». Comment expliquez-vous, vous qui avez eu accès notamment, et on y reviendra, à des albums de famille intimes que les fils de Simone Veil vous ont confiés, cet attachement, je dirais même cette affection des Français pour Simone Veil?
Mais Simone Veil, un peu l'affection qu'on a pour Simone Veil, c'est un peu le pendant de la désaffection qu'on a pour beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui. Et donc elle est d'autant plus cette icône que les icônes manquent dans notre société actuelle. Les raisons d'aimer Simone Veil sont nombreuses. Il y a quand même souvent cette question des femmes, du fait qu'elle ait agi pour les femmes. Elle n'a pas simplement parlé, elle a agi par son exemple même, par l'exemple de sa carrière. Et ça, je sais que ça compte pour beaucoup de femmes, mais aussi beaucoup d'hommes.
Alors justement, cette exposition retrace la vie de Simone Veil, son enfance à Nice, quand elle s'appelle encore Simone Jacob, la déportation. Puis quand elle devient ministre, justement, et vous nous faites découvrir des documents inédits, je pense par exemple à celui qui vous a marqué, ce discours rédigé de sa main, je crois, de Simone Veil sur la dépénalisation justement de l'avortement. Je crois même qu'elle pensait qu'elle l'avait perdu.
Oui, on a des entretiens où elle dit c'est dommage, à l'époque on ne gardait pas tout, j'ai jeté ce discours qui est un discours historique.
Eh bien non.
Eh bien non, Constance de Golemin a retrouvé le discours qu'elle a lu dans les archives de Simone Veil, dans les papiers de son appartement. Et j'ai retrouvé après, dans les cartons qui ont été transférés aux archives nationales, le brouillon de ce discours. La comparaison des deux textes indique bien qu'elle est vraiment l'auteur de ce discours historique, avec une stratégie très habile, consistant à ne pas prendre à rebousse-poil les députés de droite conservateurs hostiles à l'avortement, et à mettre en avant des principes d'humanité, des principes de stabilité juridique. On dit parfois que ce n'était pas une vraie femme politique, et si, elle est très habile politicienne dans ce discours.
Alors ça, c'est la femme ministre. Il y a aussi la femme magistrate, qu'on connaît moins, notamment lorsqu'elle était rattachée à l'administration pénitentiaire. Elle va partir en mission en Algérie, on est en 59. Elle inspecte ces prisons qu'elle juge indignes, au point qu'elle va demander d'ailleurs le transfert de détenues algériennes en France. Un sujet qui lui tient particulièrement à cœur. Et ça aussi, vous le dites bien dans l'exposition, et on le voit avec ce rapport qu'elle a écrit. Elle l'écrit elle-même pour qu'il n'y ait pas de fuite.
Oui, donc il faut s'imaginer, c'est une femme de 32 ans, elle a trois jeunes garçons, et elle part comme ça en Algérie, en pleine guerre, alors qu'il y a des attentats, alors que l'OS va se former. Donc elle prend des risques personnels. Après 10 jours sur place, où elle fait le constat des mauvaises conditions de détention des prisonnières, notamment y compris du FLN, elle tape ce discours elle-même à la machine pour éviter les fuites et le donner au garde des Sceaux, Michelet, qui est un ancien de Dachau, et donc qui est un peu le pendant, la branche humanisme du gaulliste de ces années-là contre Michel Debré. Et dans les mois qui suivent, elle va rédiger de nombreuses notes pour le ministre pour obtenir un à un le transfert des prisonniers aux prisons à Pau ou à Paris, et ainsi les sauver de la torture, peut-être même leur sauver la vie pour certains.
Et ça rejoint aussi un combat qu'elle a eu toute sa vie par rapport à la condition pénitentiaire, qui rappelle, elle le disait elle-même, effectivement, qu'elle a été déportée, qu'elle a connu les camps, la promiscuité, c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas, quelle que soit la chose que ces personnes aient pu faire et qui les ait conduits en prison ensuite.
Oui, oui. 10 ans après Auschwitz, elle revient d'Auschwitz en 45, elle commence à aller dans les prisons et elle va y aller pendant une petite dizaine d'années. Toutes les semaines, visiter les prisons. Son combat pour la dignité de la personne humaine s'étend à tous les lieux de privation possible. Et quand elle est ministre, on va retrouver, par exemple, des chartes du patient à l'hôpital, qui sont des chartes qu'on peut voir tous aujourd'hui quand on est à l'hôpital, sur l'accès au dossier médical, le droit au consentement. Et ça, c'est un des combats méconnus Et pourtant, ô combien important de Simone Veil pour le droit à la dignité des patients dans les hôpitaux.
Et d'ailleurs, dans sa biographie, une vie, elle raconte comment chaque été, quand elle partait en vacances vers le sud de la France, elle profitait du voyage pour visiter une prison, ce qui parfois mettait un petit peu en colère son mari et ses enfants. Il y a aussi beaucoup de photos de famille très intimes. Je crois que ce sont les fils de Simone Veil qui vous ont confié ces albums de famille. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces photos, justement ?
Les photos sont belles, j'ai envie de dire techniquement, parce que le père de Simone était féru de photographie, donc on a des très belles photos de la famille à Nice dans les années 30. Ce qui est très douloureux, c'est que ce sont des photos d'un paradis perdu, puisqu'il y a une famille qui est semblable à toutes les familles de la petite bourgeoisie, de la classe aisée, qui a l'air heureuse, soudée, quatre enfants. Et puis tout ça se déchire très brutalement pendant la guerre, avec cette famille qui va être déportée aux quatre coins d'Europe, le père, la mère qui meurt, le frère également Jean. Et donc ces photos sont d'autant plus touchantes que voilà, c'est la fin de cette période heureuse qui est sur les clichés.
Quels documents ou photos dans cette exposition ? Elle est très très riche et on en retrouve aussi une partie dans ce formidable catalogue publié chez Flammarion, hein, Nous vous aimons Madame, Simone Veil. Qui la décrit le mieux ?
Moi ce que j'aime bien, on a 500 pièces alors le choix est difficile. Ce que j'aime bien c'est quand elle va en Allemagne avec son mari en 52, ce qui est un peu fou. Elle suit son mari, elle accepte d'y aller. Elle écrit au directeur de Siemens, localement pour obtenir réparation. Parce qu'à Auschwitz, elle a travaillé comme esclave hein, dans ses usines. Et en PS, elle indique que bah, comme je suis sur place à Stuttgart, j'aimerais bien visiter une de vos usines ayant quelques titres à me considérer comme une des anciennes de votre établissement. Et là, il y a quelque chose de...
Sans préciser ce qu'elle y a vécu.
Elle le précise dans le corps de la lettre, mais il y a une provocation dans ce PS en disant « Moi aussi, je fais partie de la maison, vu que j'ai été votre esclave. » Et là, il y a quelque chose qu'on retrouve chez Simone Veil, c'est que sous des dehors assez conformistes, assez bourgeois, assez modérés, elle est implacable, elle est provocatrice, notamment sur le fait qu'il ne faut pas oublier ce qu'a été la Shoah. On veut l'oublier, on veut parler d'autre chose. Elle ramène le sujet par fidélité aux morts.
Et effectivement, il y a ce devoir de mémoire qui a fait d'elle, donc, et ça rejoint une Européenne convaincue et aussi, vous le dites, une témoin de la Shoah.
Oui, il y a toute une salle. On a fait un vrai choix de scénographique dans l'exposition. Il y a toute une salle sur, pas seulement sur la déportation, mais sur la mémoire de cette déportation.
Parce qu'elle en parlait, alors qu'elle le dit bien dans son livre toujours autobiographique, effectivement une vie que certains sont rentrés des camps, n'en ont pas parlé.
Oui, elle a voulu en parler par fidélité. Et puis quand elle devient ministre dans les années 70, elle ressent comme un devoir moral d'en parler. Et même si elle sait qu'au fond, on ne ressentira jamais ce qu'a été la déportation. C'est un peu Sisyphe, si vous voulez. Elle sait que c'est impossible, et pourtant elle le fait par fidélité aux morts.
Merci beaucoup Olivier Rosenberg, je rappelle commissaire de cette formidable exposition consacrée à Simone Veil à l'Hôtel de Ville de Paris. Et pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, il y a, je dis aussi, ce formidable catalogue publié chez Flammarion. Nous vous aimons Madame, ces mots donc de Jean d'Ormesson quand il l'accueille à l'Académie française. Et j'ajouterai aussi l'autobiographie de Simone Veil qu'il faut lire, relire, une vie qui est en livre de poche et qui nous dit beaucoup sur cette grande dame. Merci beaucoup d'être venu sur Europe 1.